autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour une exploration vertigineuse de l'univers et de ses origines. Comment sont nés les 1 000 milliards de galaxies? Quand et comment se sont formées toutes les étoiles qui nous entourent? Entre matière noire et énergie sombre, de quoi est composé notre univers? Pourquoi est-il infiniment plus grand, plus extraordinaire et plus mystérieux que nous le pensions, autant d'énigmes, de trous noirs, que notre invitée l'astrophysicienne Françoise Combes, spécialiste de la formation des galaxies et de la mystérieuse matière noire, cherche à éclairer. Professeure au Collège de France, titulaire de la toute nouvelle chaire Galaxie et Cosmologie, elle nous fait partager ses observations, ses découvertes et ses sidérantes interrogations autour de la question « Comment se forment les galaxies ?» Bienvenue. Bonjour Françoise Combes.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, exploratrice des origines de l'univers, spécialiste de la formation des galaxies, de leur dynamique et de leur évolution, mais également de la mystérieuse matière noire, lauréate entre autres de la médaille d'argent du CNRS pour vos travaux et vos découvertes sur la formation des galaxies. Vous venez d'être nommée professeure titulaire au Collège de France de la nouvelle chaire Galaxies et Cosmologie. C'est une première, la première fois qu'une femme est nommée titulaire d'une chaire d'astrophysique, à un moment en plus charnière pour votre discipline où le nombre absolument vertigineux de phénomènes et de mécanismes entreaperçus reste à expliquer. Est-ce qu'on peut dire que tout est ouvert, Françoise Combes ?
Oui, il est vrai que vous faites bien de dire que nous sommes dans une période extraordinaire car nous avons fait des progrès énormes ces 10 dernières années et on pense que dans les 10 prochaines années, cela va être aussi le cas vu qu'on a des mystères assez formidables à résoudre. On s'est aperçu vers l'an 2000 qu'il y avait 70% du contenu de l'univers qui était fait d'énergie sombre, qu'on a un mot qu'on a été obligé d'inventer parce qu'on ne le connaissait pas avant. Donc, et puis qui s'ajoute évidemment avec la matière noire que l'on connaît depuis 1930. Donc tous ces mystères s'ajoutent et peut-être qu'on est au tournant d'une révolution dans le phénomène fondamental, de la physique fondamentale, de la gravité et de comment se sont formées les galaxies.
Tout pourrait être remis en question sur nos origines.
Voilà, exactement.
Sur la piste donc des origines de l'univers, autour de la question comment se forment les galaxies, on commence nous par quelques pistes de réflexion sonore forcément vertigineuses avec le mix Voie lactée et matière noire de Charles Pélabon.
L'humanité a toujours lié les mystères de ses origines à ceux du monde cosmique.
Emmène-moi sur la Voie lactée. Sur la grande ours, laisse-moi filer.
Et on pensait que l'univers se limitait à cette voûte illuminée.
4% de matière connue, la matière ordinaire, celle qui nous entoure, et 96% de matière totalement inconnue.
Une mystérieuse matière noire.
Noire.
Qui fait le lien entre les étoiles et les galaxies.
On s'est aperçu qu'il y avait encore un autre élément qu'on appelle l'énergie noire et qui nous sert à expliquer pourquoi l'expansion de l'univers est accélérée.
On ne sait pas ce qu'est la matière sombre, on ne sait pas ce qu'est l'énergie sombre.
L'idée derrière Planck, c'était de réaliser la meilleure cartographie possible du rayonnement thermique issu du Big Bang.
Certaines de ces tâches vont évoluer. Elles vont se transformer en étoiles, qui vont ensuite se regrouper en galaxies, qui vont elles-mêmes se regrouper en amas de galaxies.
Il s'est créé davantage d'espace entre les galaxies. Ainsi, individuellement, gardent-elles la même taille dans un univers où l'espace est de plus en plus grand.
Trouver une particule de matière noire serait fantastique. Cela résoudrait la plus grande des questions de la science. De quoi est fait l'univers ?
On sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas ce que c'est.
Et puis si on ne trouve pas cette particule de matière noire, alors peut-être la gravité modifiée, il faudra rechercher dans cette direction.
Et la question est, qui va céder en premier ? La théorie ou la réalité ?
La théorie ou la réalité, je ne sais pas qui va céder en premier. Hein. On va revenir sur la matière noire, bien sûr, Françoise Combes, parce qu'elle excite beaucoup l'imaginaire de nos auditeurs internautes. Mais autour de la question, comment forment les galaxies, Françoise Combes, il y a des choses qu'on sait tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, en ce début de troisième millénaire ?
Alors, on sait d'abord que l'univers est créé dans un Big Bang. Hein. Ça, on le sait depuis un certain nombre d'années. Donc, au départ, c'était un univers homogène, où il n'y avait aucune galaxie. Donc c'était vraiment une soupe.
Au départ, c'est-à-dire
au tout début, disons, il y avait d'abord une soupe de ionisés, de électrons, protons, de particules qui ne sont pas encore trop chaudes pour être recombinées en atomes. Et ça, c'est jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang.
Et là, il n'y a pas encore de galaxies.
Pas du tout. Pas du tout de galaxies. Et au contraire, la matière n'est pas neutre. Hein. L'univers est très très chaud, donc c'est vraiment un plasma. Puis ensuite, avec l'expansion de l'univers, ça se refroidit progressivement. Donc ça tombe vers 3000 degrés, où à ce moment-là, on peut reformer l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus important de l'univers. Donc on forme d'abord cet atome. Et c'est ensuite, à partir des fluctuations initiales qu'a formé le Big Bang. Alors on pense que ces fluctuations proviennent de l'inflation. On a peut-être le temps d'en parler, mais enfin c'est ça qui est aussi très mystérieux. C'est quelque chose qui est un petit peu les fluctuations de mécanique quantique qu'on mesure au laboratoire, et donc un petit peu l'énergie du vide en quelque sorte. Donc on pense que de ce vide a été créé l'univers, et donc les fluctuations quantiques pourront donner lieu à des puits de potentiel de matière noire, où la matière va d'abord s'accumuler de façon noire, c'est-à-dire les particules noires, et puis ensuite, lorsque l'hydrogène est reformé, il va tomber dans ces puits de potentiel noirs, donc des halos de matière noire, et l'hydrogène va tomber, va former du gaz, et puis des étoiles, donc on aura formé les galaxies à ce moment-là.
À partir de ce moment-là, autour de la question comment se forment les galaxies, hein, c'est donc à partir d'étoiles, vous avez pu détecter, Françoise Combes, des galaxies primordiales, c'est ça, c'est né dans les tout premiers âges,
voilà,
justement,
c'est
de
ça,
l'univers.
C'est quelques millions d'années, hein, c'est quand même l'univers étant de 13,8 milliards d'années, quelques millions d'années, c'est tout jeune. Donc on a pu voir des galaxies qui étaient en train de se former à quelques centaines de millions d'années. C'est très jeune et pourtant elles sont assez grosses, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à déterminer le petit embryon. C'est encore trop peu lumineux pour que, à cette distance où nous sommes, nous pouvons l'observer.
Donc on peut observer quand même ces galaxies primordiales
dès qu'elles sont assez massives. En fait, dès qu'elles sont assez massives pour envoyer assez de lumière pour que nos télescopes soient capables de les détecter. Donc il y a quand même une limite, on n'arrivera pas à détecter les tout petits bébés, si vous voulez.
Les bébés galaxies, voilà, c'est pas possible. Il faut qu'on les voit, il faut qu'elles soient
déjà formées. Voilà, au moins adolescents, je dirais, pour faire une analogie, parce qu'il faut qu'il y ait assez de masse à ramasser dans la galaxie pour pouvoir éclairer beaucoup de lumière et que nos télescopes, parce que c'est quand même très 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 loin, hein, ça met 13 milliards d'années à nous parvenir.
C'est quand même on remonte dans les pas si on monte dans le temps. Ça met 13 milliards d'années à nous parvenir,
voilà, cette lumière-là. Hein, parce que la lumière a une vitesse finie qui est de 300 000 km par seconde. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, les photons que l'on voit arriver, ont été émis lorsque la galaxie était très, très, très jeune. Alors, évidemment, aujourd'hui, elle a vieilli, elle est beaucoup plus âgée, mais on ne la voit pas avec ses rides. Mais on la voit quand elle était petite.
D'accord, on ne la voit pas aujourd'hui avec ses rides. Les rides de la galaxie, c'est joli, ça. Et en même temps, pourtant, il y en a. Oui, des milliards des galaxies. Ah, enfin, c'est
des
complètement
milliards.
Fou.
Exactement.
On peut pas les dénombrer. C'est infini, le
en
nombre
fait,
de galaxies.
On pense que l'univers est infini. Oui, mm-hmm. En effet. Par contre, on ne pourra pas voir l'infinité de l'univers puisque, justement, à cause de cette lumière finie, de la vitesse finie, pardon, de la lumière, on ne voit qu'au-delà d'un certain horizon.
Donc, toutes au-delà, les galaxies. On peut pas voir.
On pourra pas voir puisque la lumière devrait mettre plus que l'âge de l'univers pour n'en pas venir. Donc ce sera dans quelques milliards d'années qu'on les verra.
C'est ça. Donc on peut même pas voir plus loin. Mais avec ce qu'on peut voir, donc on peut voir.
Ce qu'on peut voir, c'est au moins 300 milliards de galaxies.
300 milliards de galaxies partout
dans notre
tout
horizon.
L'univers.
Notre horizon, c'est quoi? Mais c'est une petite partie de l'univers. Hein. C'est uniquement ce qui est accessible par la lumière. Étant donné que la lumière met un certain temps. Donc c'est au début, en fait, c'est ça. Comme on remonte le temps, on remonte jusqu'au Big Bang. Mais le Big Bang, ce n'est pas une limite physique. C'est simplement dû au fait que la lumière part de là lorsqu'il y a le Big Bang.
Oui, avant, ensuite, on ne peut rien voir parce qu'il n'y a pas de lumière.
Avant, on ne peut rien voir, mais de tout de même, dans l'espace, ça c'est dans le temps. Mais dans l'espace, évidemment, il y a des galaxies derrière l'horizon.
Donc il y en a absolument partout, c'est votre sujet de recherche, hein, les galaxies, et vous cherchez à savoir quoi ? Comment elles se forment ? Dans quelle structure elles se forment ? Parce qu'il y en a en spirale,
oui.
C'est ça ?
Oui, alors il y a plusieurs morphologies, c'est vrai, aujourd'hui on voit des galaxies comme notre voisine Andromède, qui est une galaxie spirale, un petit peu comme la nôtre, la Voie lactée, qui est un disque, un petit peu comme un micro-sillon, un disque très plat, et formé de bras spiraux qui contiennent beaucoup d'étoiles et de gaz. Et puis il y a aussi des galaxies elliptiques, qui sont un petit peu comme des sphéroïdes, et qui ont perdu leur gaz. On pense que ce sont les galaxies les plus vieilles. En tout cas, elles ont beaucoup évolué, elles ont des étoiles vieilles, et il n'y a plus de gaz dans lequel on pourrait former de nouvelles étoiles. Donc il y a quand même une certaine chronologie, et les galaxies les plus sphéroïdales sont en général dans les amas de galaxies, les amas denses.
Où il y a encore plus de galaxies. Enfin, les amas de galaxies,
exactement. C'est un peu les villes, si vous voulez, dans un pays. On pourrait dire qu'il y a la campagne. La Voie lactée est un peu la campagne.
À la Voie lactée, là où on est nous, c'est la campagne. Hein. Voilà. Il n'y a pas tant que ça.
Il n'y a pas tant que ça. Il y a juste Andromède, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis dans l'amas de Virgo, il y en a beaucoup plus. Et puis dans l'amas de Coma, c'est très très riche. C'est-à-dire que les galaxies, elles se touchent pas, mais enfin, elles sont beaucoup plus proches les unes des autres. Et c'est vraiment comme une ville où il y a tout le monde les uns sur les autres.
Et à l'intérieur de ces villes, il y a des étoiles, c'est ça, hein.
Voilà, exactement. Les galaxies sont toujours pleines d'étoiles. Alors on pense que dans les amas de galaxies, donc, les galaxies évoluent beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'elles sont vieilles plus tôt. C'est-à-dire que dans les amas de galaxies, il y a beaucoup plus de galaxies elliptiques qui sont sphéroïdes.
Sous la bonne étoile de M, tout de suite, dans notre galaxie, dans la Voie lactée, sur la RFI.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille.
La bonne étoile de M qui file sur RFI autour de la question comment se sont formées les galaxies. Question vertigineuse sur laquelle planche notre invitée, l'astrophysicienne Françoise Combes, qui vient d'être nommée titulaire de la nouvelle chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France. Choisie donc Françoise Combes par vos pairs, hein, professeurs au Collège. Comme Gérard Berry, titulaire lui de la chaire numérique et médaille d'or 2014 du CNRS, il a une question pour vous.
Elle m'a dit que dans l'astronomie, l'algorithme était devenu aussi important que l'instrument, parce que les instruments sont très algorithmiques et il fait beaucoup de données. Elle m'a dit qu'elle n'en parlerait pas dans sa leçon inaugurale, mais je voudrais bien qu'elle précise ça. C'est-à-dire, est-ce qu'en astronomie, si on n'a pas cette pensée algorithmique en plus de la pensée physique, parce qu'il faut les deux là, hein, c'est clair, l'astronomie c'est très, très compliqué, si on n'a pas les deux... Enfin, qu'est-ce que la pensée algorithmique a apporté en tant que pensée, pas seulement en tant qu'outil ? En tant qu'outil, je le sais, les astronomes ont été toujours très bons en informatique, mais en tant que fondement de la pensée et pas uniquement en tant que technique.
Françoise Combes, vous pouvez vous répondre à Gérard Berry.
Oui, on utilise beaucoup l'algorithmique dans les simulations numériques déjà. Et là, je pense qu'au point de vue pensée, évidemment, l'outil est évident, mais au point de vue pensée, il y a peut-être une récursivité qu'on peut...
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie dans les objets astrophysiques. Par exemple, les amas de galaxies qui sont compris dans des super-amas et qui contiennent des amas de galaxies, puis des petits groupes, puis des galaxies, etc. On a en quelque sorte des poupées russes. Mm-hmm. Et donc, c'est un petit peu ça, la récursivité. C'est un petit peu comme regarder une boîte de vache qui rit, qui a comme bout d'oreille une boîte de vache qui rit, qui a pour une boîte de vache qui rit.
C'est ça, en fait, faut tout le temps pouvoir penser comme ça, voir comme ça à l'infini.
C'est ça, la récursivité. Je pense que l'algorithme récursif s'adapte beaucoup parce que nous, on a des structures toujours imbriquées. Et on a à la fois pour les galaxies, mais aussi pour les nuages moléculaires qui donnent lieu aux étoiles. On a au moins 6 ordres de grandeur de récursivité, c'est-à-dire de...
D'infiniment grand à l'infiniment petit, contenu à l'intérieur.
Exactement.
Et à l'infini.
À l'infini. Enfin, à l'infini. Il y a toujours un plafond et un plan. Mais enfin, il y a beaucoup d'ordres de grandeur entre-temps. Ça fait que quand on est au milieu, on peut penser qu'il est infini, pratiquement, oui.
Alors, votre particularité aussi, si j'ose dire, Françoise Combes, c'est que vous êtes exploratrice des origines de l'univers, à la fois par vos observations, qui vous ont permis, on l'a dit, notamment de détecter des galaxies primordiales, mais aussi pour vos travaux donc théoriques de simulation numérique. Qu'est-ce que vous faites ? Vous simulez des galaxies sur ordinateur,
c'est ça ? Oui, exactement. On a simulé. Alors, c'est très intéressant parce que les galaxies, on pense qu'elles se forment par fusion. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies spirales qui se forment d'abord, et puis ensuite les galaxies spirales se rencontrent dans les petits groupes, et elles finissent par fusionner pour en former une seule galaxie. Et peu à peu, on pense que la Voie lactée a peut-être connu une dizaine de fusions comme ça, c'est-à-dire qu'elle a mangé toutes les galaxies autour pour en former une plus grosse.
Mais comment ça se passe, ça, quand une galaxie...
Alors justement, on le simule, alors il y a des effets de marée, donc il y a des bras de marée qui sortent, qui sont étirés très très loin de la Voie lactée, et puis ensuite, il y a un renforcement du cœur, et puis il y a une fusion des centre en fait. Donc tout ça, c'est un code de gravité qu'on simule, mais on simule aussi la formation des étoiles et puis ensuite le gaz qui est rejeté par les étoiles. Donc c'est assez complexe, c'est pour ça qu'on a besoin de simuler pour connaître le résultat et comparer avec les observations.
Et oui, et parce qu'en plus ces observations là sont quasiment impossibles à faire. Enfin,
alors on observe mais du point de vue statique, c'est-à-dire on voit le résultat. Et ce qu'on aimerait, c'est faire tout le film, du début jusqu'à la fin, et c'est ça que nous apporte la simulation.
Ah oui, ça, toute la dynamique, toute l'évolution.
Voilà, la dynamique. C'est pas comme un physicien qui, au laboratoire, peut faire toute l'expérience du début jusqu'à la fin. Nous, ce qu'on voit, c'est un état statique. Parce que la fusion de galaxies, ça prend des millions et des milliards d'années.
Ah oui, c'est l'échelle est folle, enfin.
On le voit d'une façon immobile. Et puis, on en voit plusieurs. Donc, on peut se dire que certaines sont au début, certaines sont au milieu, certaines sont à la fin. Et on va vérifier ça avec les simulations. Est-ce que ça correspond à toute cette suite, cette séquence de ce qu'on voit dans les observations. Et puis on simule aussi tout l'univers, c'est-à-dire la formation des galaxies à partir du début, le bébé galaxie qui devient plus ou moins âgé en mangeant ses
autres galaxies. Et donc tout ça, vous le faites donc dans votre bureau à l'Observatoire de Paris. Vous avez aussi beaucoup voyagé dans les observatoires au Chili, aux États-Unis, en Espagne, mais vous travaillez beaucoup finalement à l'Observatoire de Paris dans votre bureau, tapissé de photos, je crois, de galaxies, mais devant votre ordinateur.
Oui, c'est vrai. Alors, autrefois, il y a plus de 10 ans, on allait souvent vers les télescopes pour observer. Donc, on voyageait beaucoup en Espagne et au Chili, puisqu'il y a beaucoup de télescopes européens qui sont au Chili. Et aujourd'hui, avec l'informatique, on ne voyage plus beaucoup parce que les observations viennent à nous. On peut les observer soit à distance, c'est-à-dire être en temps réel, en train de regarder le télescope bouger et le contrôler. Ou alors, certaines personnes sur place font les observations pour nous et nous renvoient les résultats par CD-ROM. Et donc, tout se fait dans notre bureau de plus en plus.
Et voilà pourquoi aussi, peut-être, il y a eu de telles avancées ces dernières années. C'est peut-être aussi cette combinaison d'outils, enfin de gigantesques observatoires, enfin avec des télescopes gigantesques plutôt, plus les satellites, et puis la modélisation ensuite sur ordinateur. C'est la combinaison des deux qui permet ça.
Le nombre de galaxies que l'on connaissait il y a 10 ans, on était se comptait en milliers, centaines de milliers. Aujourd'hui, on a des millions et bientôt des milliards de galaxies. Donc tout cela, ça nous fait en quelque sorte un observatoire virtuel, parce que tout ça est dans les ordinateurs, et tout le monde, dans n'importe quel pays, peut les accéder.
Donc et ça communique bien dans la communauté voilà. Des astrophysiciens.
Et donc, toutes les observations sont publiques, on ne les garde pas pour nous, on les rend publiques tout de suite, et donc chacun peut manipuler ces millions de galaxies, et c'est là que ça fait un progrès énorme.
Manipuler des millions de galaxies, autour de la question comment se forment les galaxies, on n'a pas fini de rêver. On poursuit l'exploration des origines de l'univers dans 3 minutes, juste après le flash d'info, on vous retrouve Françoise Combes pour nous interroger cette fois sur cette mystérieuse matière noire. À tout de suite.
Mardi.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette exploration vertigineuse des origines de l'univers, autour de la question comment se sont formées les galaxies, en compagnie de l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France, titulaire de la nouvelle chaire Galaxies et Cosmologie. Le thème de cette première année d'enseignement, libre et ouvert à tous, c'est la matière noire.
Il existe une mystérieuse matière noire qui fait le lien entre les étoiles et les galaxies, et d'étranges particules, comme les WIMP, les axions et les machos, qui pourraient bien être au centre de cette énigme. Il y a également une énergie sombre, de nature répulsive, qui crée de l'espace dans l'univers et éloigne les galaxies les unes des autres, leur réservant ainsi un destin funeste. À L2, la matière noire et l'énergie sombre constituent plus de 96% de l'univers. Tenter de découvrir leurs secrets, c'est comme tirer sur une cible en train de s'éloigner.
La mystérieuse matière noire, extrait de la série « L'univers et ses mystères » diffusée sur RMC Découverte, c'est un peu comme tirer sur une cible en train de s'éloigner, Françoise Combes, quand on travaille sur la matière noire et l'énergie sombre.
Oui, en quelque sorte, on pourrait dire cela, parce qu'on a découvert la matière noire il y a des dizaines d'années déjà. On pensait qu'elle était un petit peu proche, qu'on allait découvrir la solution.
Et finalement, on a découvert qu'on ne la comprenait pas, mais qu'il y en avait, c'est
ça. Oui, on avait, et maintenant, on a pensé que peut-être dans les grands accélérateurs comme au CERN, le LHC.
Les grands accélérateurs de particules.
On a trouvé le boson de Higgs récemment, en 2012, et donc on pourrait penser qu'on trouverait ces particules qui sont très massives. Eh bien, toujours pas. Et donc, on a l'impression que ça s'éloigne, c'est vrai.
Et elles représentent ces particules, donc cette matière noire, 25% de la matière qui compose l'univers.
Oui, en fait, on prend la matière seulement, quand on ne prend pas en compte l'énergie sombre, c'est plutôt 85% de la matière.
85% de la matière, c'est de la matière noire qu'on
comprend
pas, qu'on ne
connaît pas. On a 15% de masse visible et 85% de matière noire, au point de vue matière. Donc, c'est vraiment la majorité. Donc, pour former les galaxies, il faut penser à quelle est la nature de cette matière noire. Justement, on arrive, par l'astrophysique, à savoir que ces particules n'interagissent pas du tout avec l'interaction forte, bien sûr, ni quoi que ce soit. Sinon, on l'aurait déjà vu. Et puis aussi, si c'était, par exemple, un neutrino qui, on sait aujourd'hui, a une masse, donc tout de suite, la première idée, c'est de dire, bon, c'est le neutrino qui pourrait faire la matière noire. Mais ce neutrino commence à être relativiste au départ. Il a une très grande vitesse, presque la vitesse de la lumière. Et donc, il empêche les structures de se former. C'est-à-dire, on pourrait pas former les galaxies.
Donc, ça marche pas avec le neutrino,
On forme les grandes structures, les grands amas, puis ensuite, ça pourrait se fragmenter. Mais il y aurait pas assez de galaxies.
Donc, il manque quelque chose, c'est la matière noire et l'énergie sombre. Alors, voilà encore autre chose. Et
alors, l'énergie sombre, oui, c'est pas la même chose, parce que la matière noire attire et permet de rendre cohérent les galaxies. Par contre, l'énergie noire repousse, au contraire. Donc, ça explique l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, ça rend les choses beaucoup plus diffuses. Et ça repousse. C'est un petit peu comme l'inflation au début de l'univers. On a quelque chose qui est tout d'un coup, a augmenté de plusieurs ordres de grandeur, à peine 60 ordres de grandeur, la taille de l'univers par une répulsion. Une grande énergie qui est donnée à tout l'univers.
Voilà pourquoi on l'appelle l'énergie. Donc, la matière noire, il y en a, elle rassemble. On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas ce que c'est. Et l'énergie sombre qui, elle, permet l'expansion de l'univers, on ne sait pas non plus ce que c'est, il y en a encore plus.
Et voilà, il y en a 70% dans le contenu de dernier recensement, par exemple, du satellite Planck.
Et comment est-ce qu'on l'a découvert, cette énergie? Alors, énergie noire, énergie sombre, je ne sais pas trop comment il faut
alors,
le dire.
Alors, l'énergie, ça a été découvert en 1998, à 2000 environ, donc il n'y a pas si longtemps que cela. Et on s'est aperçu que l'expansion de l'univers était accélérée, alors qu'au départ, comme il n'y avait que de la matière dans notre idée avant l'an 2000, on pensait que même si on a donné une impulsion au départ, l'expansion va se décélérer, puisque toute la matière qui est dans l'univers décélère un petit peu. C'est comme quand on envoie une pomme au-dessus de la Terre, elle va retomber, parce que la gravité de la Terre va la rapporter. Donc finalement, on pensait qu'il n'y aurait qu'une décélération, et tout d'un coup, on a vu que ça s'accélérait.
Et ça, c'est impossible. Et ça continue de s'accélérer. On s'éloigne tous les uns des autres pendant qu'on parle.
Voilà. Alors, pas nous, parce que les galaxies entre elles.
Oui, d'accord.
La galaxie est liée, et donc toutes les étoiles dans la galaxie ne s'éloignent pas.
D'accord, ce sont les galaxies qui s'éloignent
entre elles. Et donc l'univers va devenir de plus en plus vide, même que notre Voie lactée ne va pas changer par cette expansion, parce qu'on est déjà lié, on est déjà découplé de l'expansion, donc c'est à grande échelle que ça s'éloigne encore. Et donc l'univers va devenir de plus en plus dilué.
Et on a découvert d'autres choses, on a découvert aussi, il y a un de nos auditeurs, alors là il est basé à Niamey au Niger, c'est Moussama Bandareni, qui demande quelle est la différence entre un trou noir et la matière noire, parce qu'on a découvert un trou noir au centre de notre galaxie.
Oui, il y en a même un dans chaque galaxie. Au centre de chaque galaxie, un trou noir supermassif. Parce qu'il y a plusieurs trous noirs. Il y en a des petits et des gros. Alors les petits, c'est la fin de vie d'une étoile, par exemple une supernova qui éclate, et le reste, le cœur, va s'effondrer en trou noir. S'il n'y a plus assez de pression, l'étoile ne rayonne plus, il n'y a plus assez de pression pour compenser la gravité, ça s'effondre en trou noir. Mais c'est un trou noir d'une masse solaire. Il y en a plein dans la Voie lactée.
Des petits trous noirs,
mais des petits, petits. Mais par contre, un gros, c'est-à-dire un milliard de soleils,
il
peut y en avoir, ça fait presque un point au centre de chaque galaxie.
Et ça, il y en a au centre de chaque galaxie, donc au centre de la nôtre.
Et oui, au centre de la nôtre aussi. Et la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe du sphéroïde. Alors pour la Voie lactée, c'est un petit bulbe, donc on a un petit trou noir. Mais par exemple, une grande galaxie elliptique a un trou noir de quelques milliards de masses solaires. Donc ça, on le sait que c'est l'évolution naturelle. Lorsqu'une galaxie se forme, il y a un petit trou noir qui commence à se former au centre. Et puis peu à peu, il mange le gaz et les étoiles qui se dirigent vers le centre. Et il grossit, jusqu'à atteindre des milliards de masses solaires.
Donc ça, on le comprend. Et Charles nous demande derrière la vitre, mais ça va où ce trou noir ?
Ah, alors ça c'est un grand problème, parce qu'on connaît pas le résultat de la gravité quantique. Donc on sait qu'au bout d'un certain temps, ça fait comme une singularité pour nous au point de vue classique. Mais certainement la singularité, ça n'existe pas en mécanique quantique. Il va y avoir une certaine courbure avec un principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc on va avoir une courbure qui fluctue, etc. Il n'y a pas de singularité en quantique. Mais ça, on n'a pas encore résolu c'est la physique fondamentale, la gravité quantique.
Qui pourra nous aider à résoudre les trous noirs. Autour de la question de la matière noire, des trous noirs, de la composition de l'univers et de la formation des galaxies qui agitent aujourd'hui tous les physiciens, on l'a compris, hein, les astrophysiciens comme vous, mais aussi les physiciens des particules. Je propose une nouvelle question du physicien Gabriel Chardin, qui était récemment notre invité.
Françoise, j'ai assisté à sa conférence inaugurale au Collège de France récemment sur tout ce qui est matière noire, énergie noire, de ces questions astrophysiques extrêmement d'actualité. Je sais qu'on se dirige chacun vers un élément de solution. On a nos solutions préférées et Françoise a la sienne avec la gravité modifiée. Mais en fait, moi j'ai proposé une solution qui était liée autour de l'antimatière, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas y avoir, comme Françoise le propose, de matière noire, mais une antimatière qui n'aurait pas les propriétés de gravitation que l'on pensait au départ. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un lien entre les deux, comme y avait réfléchi à un moment donné le physicien Luc Blanchet? Voilà, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que ça lui plaît comme hypothèse? Vers quoi elle se dirige?
Votre réponse. Parce que je ne sais pas si on va la comprendre, votre réponse, mais on a envie de l'écouter quand même.
Donc l'hypothèse de Gabriel Chardin est très très ambitieuse, enfin très originale aussi. Hein. Il pense que l'antimatière, dont on connaît la réalité, ça existe.
L'antimatière, c'est encore autre chose.
L'antimatière, c'est par exemple un proton, un antiproton. Par exemple, on sait dans les rayons cosmiques tombent des astres de l'antimatière. Mais il y en a très très peu. Hein. Et puis elle s'annihile très vite avec la matière et pour former des rayons gamma, de la lumière. Donc on sait que l'antimatière existe. Par contre, on pense que, d'après le théorème d'Einstein, qu'il y a un principe d'équivalence entre masse d'inertie et masse pesante. En fait, tous les objets dans la gravité se comportent de la même façon. C'est-à-dire que l'antimatière a une masse positive, de même que la matière. Donc la même masse. Le proton et l'antiproton ont la même masse. Et comme la gravité avec Einstein, c'est comme un espace qui est déformé, Hein, dès qu'il y a un objet, voilà, un espace courbe. Lorsqu'il y a une grosse étoile, par exemple, l'espace fait comme un tapis qui fait un petit creux autour de l'étoile. Donc toutes les petites billes vont tomber dans ce trou, hein. Et que ce soit matière ou antimatière, ça va tomber de la même façon. Alors l'hypothèse qui est vraiment très iconoclaste que fait Gabriel, c'est que l'antimatière aura une masse négative. Et au lieu de tomber, elle va repartir de l'autre côté. C'est-à-dire que la gravité n'agit pas de la même façon pour tous les corps.
Et ça voudrait dire que l'antimatière, enfin la matière noire, ça serait proche de l'antimatière du coup.
Déjà peut-être. Alors ça c'est encore une autre hypothèse par au départ. Peut-être que au départ de l'univers, comme on sait qu'il y a eu une asymétrie matière-antimatière, il y a à peu près en équilibre avec la lumière. Au départ, il y a un excès de matière sur l'antimatière. Il est tout petit, c'est un milliardième. Donc il y a beaucoup plus de photons que de matière antimatière, ça s'annihile. Et après, comme il y a une toute petite asymétrie, il reste un milliardième de matière par rapport aux photons. Et ça a été l'objet de beaucoup de travaux il y a 30, 40 ans. Les gens pensaient qu'en effet, on pourrait peut-être avoir une symétrie matière antimatière. Il y aurait d'un côté des galaxies de matière, de l'autre des galaxies d'antimatière. Et on a fait des calculs pour ça. On a pensé que lorsque ces galaxies allaient interagir, ça allait annihiler complètement. On aurait beaucoup de rayons gamma. Et on n'en a pas observé. Donc finalement, l'idée d'antimatière, d'univers d'antimatière séparé de la matière,
ça a un peu disparu. Ça fonctionne pas tellement. Donc ce que dit Gabriel Chardin, vous, c'est quoi
mais
votre...
Là, pour l'instant, la matière, quand on le faisait autrefois, c'était quand même de la même masse. Donc il ajoute une hypothèse que la masse, c'est négative. Alors il faudrait peut-être la tester d'abord, de façon... particule par particule, on peut pas avoir la gravité des particules parce que le proton et l'antiproton, ils ont une charge. Et donc, la force électromagnétique est beaucoup plus grande que la force gravité. On n'arrive pas à mesurer est-ce que la masse est négative ou pas. Mais il y a des expériences qui sont proposées pour le tester. Donc, peut-être dans le futur, on le saura. Est-ce que l'antimatière a une masse négative? En fait, pour l'instant, dans la théorie standard, ça a une masse positive.
Et vous, votre piste à vous, si j'ose dire, ou votre hypothèse à vous par rapport à cette énergie son et par rapport à cette matière noire sur laquelle vous travaillez, ce serait quoi? Vous avez l'impression que vous pouvez...
Alors, je suis deux pistes. Hein. Une qui est un peu conventionnelle, qui est de penser qu'il y a une masse, une matière noire avec des particules de masse très fortes, qui sont 1000 ou 10 000 fois plus grandes que la masse du proton, donc quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Alors on fait des simulations de ce genre, et puis, de temps en temps, 10% du temps, on fait une simulation avec une gravité modifiée, où il n'y a pas de matière noire du tout. Donc, il y a un petit peu une dégénérescence hein, pour une galaxie. Soit on dit que la loi de gravité, c'est la loi de Newton, et on est obligé de rajouter des particules de matière noire. Soit on dit qu'il n'y a pas de matière noire du tout. Mais alors, à ce moment-là, on change la gravité. Il faut changer cette gravité en champ faible, lorsque, justement, il n'y a que les astronomes qui peuvent s'en apercevoir. Lorsqu'on est au bout des galaxies, lorsqu'il y a très peu de matière, la force de gravité est très faible. Ça n'arrivera jamais dans le système solaire. La force de gravité est très forte. Donc, tous les physiciens du système solaire ne peuvent pas s'en apercevoir.
Il faut aller au-delà.
Et donc, il n'y a que les astronomes qui s'en sont aperçus. Donc, peut-être qu'il faudrait changer la loi de gravité.
Mais changer la loi de la gravité, ça veut quand même dire changer.
Oui, on l'étend. C'est un petit peu comme Einstein a étendu la loi de Newton, qui était la loi jusqu'à l'époque, jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, c'est toujours vrai dans certains domaines d'application. Et puis, c'est lorsque ça devient relativiste, ou lorsqu'elle est en champ fort, on a besoin de la relativité.
C'est-à-dire qu'au fond, ça change, la physique change selon qu'on est. Dans l'infiniment grand, voilà, ou dans l'infiniment petit, ou à notre taille à nous.
Voilà,
c'est pas les mêmes lois de la physique.
Exactement. Ce serait une extension. C'est-à-dire que dans tout le système solaire, ce serait la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, au bord des galaxies, lorsque le champ est faible, en champ très faible, alors on change la loi.
Et donc vous explorez cette piste-là?
Exactement. Et donc, on arrive à faire des simulations et à expliquer la formation des galaxies avec cette hypothèse-là. Alors tout n'est pas encore bien parfait, de même que dans le modèle standard de particules matière noire, tout n'est pas parfait non plus, donc on a des problèmes pour expliquer la formation des galaxies. Donc dans les deux pistes explorées aujourd'hui, les deux ont des problèmes et rien n'est parfait.
Mais en même temps, ça a l'air de vous réjouir qu'il y ait tant de questions, d'interrogations, de pistes à creuser.
Parce que c'est une surprise, on a l'impression qu'on va toucher à la solution et toujours elle se recule, donc c'est un petit peu comme une enquête hein, de... Les policières, on aimerait connaître la solution.
Et vous avez l'impression que c'est une échelle de temps, vous qui travaillez sur des échelles de temps tellement vertigineuses, qu'on pourra voir de notre vivant, au fond?
Oui, je pense que oui, parce qu'on est en train de lancer des grands instruments, par exemple le satellite Euclide, qui est un satellite européen, qui va être lancé en 2020. Donc on est qu'en 2015, c'est pas longtemps.
Et qui permettra donc là pour le coup d'observer, enfin de vérifier par l'observation certaines...
Certains, alors on ne verra pas les particules de matière noire encore, mais on verra comment l'univers rentre en expansion accélérée. Parce qu'aujourd'hui on le connaît, c'est très accéléré, mais à un moment donné, à quelle période elle a commencé son accélération? Au début de l'univers, il n'y avait pas d'accélération de l'expansion, c'est une expansion douce, et puis c'est seulement... les derniers 10% de la vie de l'univers qu'on pense que ça s'est accéléré. Et quand? Et ça nous permettra de raffiner un peu la nature de l'énergie sombre et de la matière noire, tout cela. Et avec ça, le télescope Euclide, c'est un peu comme le télescope spatial Hubble, mais qui aura un grand champ, c'est-à-dire qu'on pourra faire tout le ciel, alors que le Hubble n'avait fait que des petits champs. On avait des champs très profonds, on pouvait regarder les galaxies très très loin, mais on avait
très
pas...
loin dans l'espace et très loin dans le temps.
Très loin dans le temps, voilà. Mais on n'avait pas une grande surface. Avec Euclide, on aura des milliards de galaxies.
Milliards de galaxies autour de la question de la matière noire, de l'énergie sombre et de cet inconnu qui compose notre univers et ses infinités de galaxies. Ben, on va s'arrêter sur notre voie lactée à nous, hein. Milky Way, Marcus Miller et Keb Mo sur RFI.
Some kind of answer. Stars are shining bright. They decorate the night in Gemini, Sagittarius, and Cancer. Somewhere out there, a mysterious form of life is awaiting. They're gonna save us, make us famous, and we won't have to feel so all alone.
Dans la Voie lactée avec Marcus Miller et Keb Mo sur RFI. Autour de la question comment se sont formées les galaxies, de quoi est composé notre univers, nous sommes dans le noir, hein, entre matière noire et énergie noire, avec notre invitée, l'astrophysicienne Françoise Combe, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Nous découvrons donc un univers bien plus grand, plus extraordinaire, plus mystérieux qu'on l'imaginait. C'est l'éclairage en forme de question du planétologue Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire OCNES.
Des questions qu'on se pose, évidemment, c'est ce que Planck a mesuré récemment. Ça ouvre des questions et on est quand même dans un domaine très, je dirais pas qu'on est au bord d'un gouffre, mais quand même, la matière visible représente 4% de l'univers. Donc, on a l'énergie sombre, on a la matière sombre, tout ça, c'est une invention de cosmologistes, mais qu'on n'a toujours pas trouvé. On ne sait pas ce qu'est la matière sombre, on ne sait pas ce qu'est l'énergie sombre, on a inventé ces concepts pour faire coller la théorie avec l'expérience. Donc, on est au bord d'une nouvelle révolution. Et comment elle voit cette révolution, elle, puisqu'elle connaît bien le sujet.
Alors comment vous voyez cette révolution, vous qui avez donc inventé, hein, c'est une invention de cosmologiste, joliment, hein, Francis Rocard, cette matière noire et cette énergie.
Oui, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'on les a inventés parce qu'on les a pas vus. Donc il n'y a aucune évidence concrète de leur existence. C'est pourquoi une alternative de dire qu'il faut changer les lois n'est pas si idiote finalement jusqu'à présent en fait.
Donc révolution vraiment peut-être de la physique et des lois
parce qu'en effet c'est les lois fondamentales. Donc ça a été inventé dans les années 80 hein, déjà. Milgrom avait pensé à une loi modifiée de la gravité. Il n'a pas été suivi parce qu'en fait il y avait la relativité générale qui était très bien vérifiée dans le système solaire.
Mais qui marchait tellement bien.
Il avait raison complètement. Mmh. Et c'était un tabou de la modifier. Mais lorsqu'est apparue cette énergie sombre dans les années 2000. On est obligé de modifier quand même parce que il y a soit une constante cosmologique qui était quand même pas prévue. Einstein l'avait commencé par le prévoir pour dire que l'univers était stationnaire, puis après il était revenu, il avait rétro-pédalé en disant non, c'était sa plus grande erreur, et donc la constante cosmologique était disparue, et jusqu'à présent elle était nulle, donc il n'y avait pas de constante cosmologique. Donc tout d'un coup, il faut en faire apparaître une autre, et puis on voit qu'elle ne peut pas être expliquée par la mécanique quantique aussi, et donc il faut penser qu'il y a peut-être un cinquième élément, une quintessence, qui va varier dans le temps. La constante cosmologique serait constante, depuis le début de l'univers, là, ce serait quelque chose de variable.
Et ça, qui ne serait pas la même dans le temps.
Dans le temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pratiquement pas visible au début de l'univers. Et puis aujourd'hui, on voit ses effets. Mais ça aurait pu avoir une variation, on ne sait pas laquelle d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on envoie des satellites, donc Euclide, mais aussi des télescopes au sol, comme le Large Synoptique Télescope, qui va être au Chili, qui est essentiellement américain, mais les Français participent aussi. Et qui, ce télescope-là, va nous permettre plusieurs choses. D'avoir le spectre et le spectre photométrique de millions de milliards de galaxies.
Millions de milliards de galaxies.
Aussi va s'attacher à regarder la variabilité des objets. Donc, il a un très grand champ. Il pourra, en trois nuits, faire tout le ciel. Observer tout le ciel qui est visible de l'univers sud, hein, puisqu'il va être au Chili. Et puis, tous les trois jours, il va recommencer. Donc, on va sommer ensuite pour avoir quelque chose de plus profond, parce que trois jours, ce sera assez faible, en fait, comme faible intensité. Puis ensuite, plusieurs années après, on aura beaucoup plus de profondeur dans chaque point. Mais l'aspect temporel est très important, car chaque nuit, on aura des objets variables. Même, ils feront des pauses successives du même objet du ciel, pour avoir des variabilités de 30 secondes à la minute, etc.
Et ça ne s'est jamais produit, parce qu'avant, finalement, on pouvait observer quoi
Alors, on a vu des supernovae, par exemple. Il y a des gens qui regardaient un coin du ciel et qui, tout d'un coup, voyaient une supernovae commencer à briller. Une supernovae dure, ça commence à amplifier son rayonnement, et puis ça dure un mois ou deux, puis ensuite ça s'éteint. Et ces supernovae, ce sont des chandelles standards. On sait qu'elles ont une luminosité intrinsèque donnée. Donc ça nous permet d'avoir la distance avec la magnitude apparente. Et c'est ça qui nous permet de savoir si l'expansion est accélérée ou non. Et maintenant, on voit des supernovae très très loin. Donc on peut avoir cette loi de variation de l'expansion et donc peut-être la quintessence, le cinquième élément de cette énergie
sombre.
C'est-à-dire
que c'est plus statique au fond ce que vous observez, c'est en mouvement.
Voilà. Et donc ces supernovae, on va peut-être avoir chaque nuit, avec ce nouvel instrument, on aura 2 millions d'objets variables qui seront en alerte. Il faudra faire la spectroscopie un peu plus fine pour savoir si ce sont des supernovae, des étoiles variables, ou bien des sursauts gamma, ou bien d'autres choses. Mais on aura une richesse dans les supernovae qui va être fantastique, parce qu'aujourd'hui, des supernovae très très bien connues, on en a quelques centaines, c'est tout.
Et il pourrait y en avoir des milliers, plus.
Ah oui, des millions.
Ensuite, il faut traiter toutes ces informations, donc il faut les ordinateurs qui suivent derrière.
Voilà, on pense qu'avec la loi de Moore, on sait que le puissance de calcul multiplié par 2 tous les 18 mois, donc on pense qu'à l'époque où ces télescopes viendront, en 2020, on aura la puissance de calcul nécessaire. Aujourd'hui, on ne l'a pas tout à fait encore, hein, on n'a pas... Et puis aussi, la mémoire, il faut des pétabytes, des disques très très puissants pour chaque nuit avoir toutes les données sur un disque. Rien que ça.
Et ensuite, il faut que des grands esprits comme vous, les chercheurs comme
alors
vous...
Alors les chercheurs commencent dès aujourd'hui à faire des algorithmes pour pouvoir traiter c'est déjà maintenant que ça commence, pour être prêt en 2020 à pouvoir traiter ça. Parce qu'il faut pas, lorsque les données arrivent, on soit pris au dépourvu. Donc les algorithmes commencent à être traités aujourd'hui.
C'est quand même étonnant, parce qu'au fond, on a l'impression à la fois que plus on en sait, plus on peut en traiter, plus les questions qui s'ouvrent sont complètement vertigineuses, et plus on découvre ce qu'on comprend pas et ce qu'on connaît pas. Mais loin de vous arrêter, c'est ça qui
voilà, exactement. Je pense que plus... plus on avance et plus on découvre de choses qu'on n'avait pas pensé. On est surpris. Je pense qu'on aura peut-être encore d'autres surprises, mais ces 10 dernières années ont été folles à ce point de vue-là.
Et surpris par quoi ? Par l'immensité, l'infinité questions de l'univers, de tout ?
Il y a à la fois quantitatif, en effet, oui. Il y a énormément plus, et puis aussi qualitatif, parce que cette énergie sombre, en 2000, on la découvrait. Donc, au XXe siècle, on la connaissait pas du tout. Et ça, personne ne l'avait imaginé. Vraiment personne, ça a été une surprise totale. Donc, on a encore des surprises comme ça, et on pense qu'on en aura d'autres, certainement.
En tant qu'astrophysicienne, plein de surprises. En tant que femme aussi, j'ai envie de dire, c'est comme ça, ce regard sur les origines de l'univers, sur ces questions complètement vertigineuses, qui ne cessent de s'inclure, de se reproduire à l'infini, et qui en ouvrent toujours d'autres. Ça change quoi? Ça change la perspective qu'on a soi-même dans sa vie humaine?
Je pense que oui, parce qu'en fait, on cherche tous d'où l'on vient, comment tout ce qu'on a autour de nous s'est constitué. Et on a l'idée folle, pour l'instant, la seule théorie qui marche, c'est celle de l'inflation, où à partir d'un vide quantique se commence à former des structures, et c'est seulement de l'énergie au départ qui commence à former de la matière et puis tout ce qui nous entoure ici. Donc on sort du vide, en fait, c'est un peu, on sort du néant. Et donc ça relativise un petit peu tout ce qu'on sait aujourd'hui.
On sort du vide et puis on est tout petit dans un univers infini.
Un verre très 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 grand.
Qu'on est quand même capable de, peut-être pas de comprendre, mais au moins d'essayer d'appréhender avec notre petit cerveau.
Voilà, on pense qu'on a fait beaucoup de progrès ces derniers temps et peut-être qu'on va trouver des solutions dans les dizaines d'années qui viennent.
Vous revenez quand vous voulez, Françoise Combes. Merci infiniment d'être venue en direct pour nous faire partager ces interrogations sidérales et sidérantes, vos découvertes, vos recherches. Je rappelle que vos cours au Collège de France sont ouverts à tous les auditeurs libres qui nous écoutent. C'est tous les mercredis, le prochain ce sera demain. Mercredi 21, il portera sur la matière noire dans la formation des galaxies. Tiens donc, on vient d'en parler, mais ça sera un peu plus fouillé certainement. Avis aux amateurs, et puis pour tous nos amis internautes et auditeurs libres, je rappelle que tous vos cours et votre leçon inaugurale seront disponibles sur le site du Collège de France. Le lien est bien sûr sur notre page. Merci à vous.
Merci.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Demain, autour de la question « Pourquoi faire l'économie du bonheur ?», nous nous demanderons si le bonheur pourrait constituer un nouvel indice en économie et comment mesurer un phénomène aussi subjectif et impalpable que le bonheur. Piste de réponse, heureuse et malheureuse. Demain, avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.